Je veux vous demander ce matin de regarder votre Bible dans Marc chapitre 15, verset 34. Nous allons célébrer tout à l'heure après le message, donc la Sainte Cène, et c'est à ce propos, comme on est le premier dimanche du mois, on célèbre la Sainte Cène, c'est à ce propos que j'ai choisi ce passage pour nous rappeler de souffrance indicible que notre Seigneur a subie à notre place. Et nous lisons dans Marc 15, verset 34, « Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans Matthieu, chapitre 27, verset 46, la même chose, si vous comparez, il y a une petite chose qui différencie le début. Marc précise à la neuvième heure, mais Matthieu dit vers la neuvième heure. Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'intitulerai ce message « Une interrogation troublante » de la part de Jésus, une interrogation troublante. Marc nous présente ici l'un des passages les plus inquiétants des Écritures, à mon sens. Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, sol lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce matin, juste pour préparer nos cœurs pour la Sainte Cène, j'aimerais, face à ce passage, considérer juste trois points. D'abord, le moment ou les circonstances de l'interrogation. Pourquoi m'as-tu abandonné? Nous allons voir après le sens de l'interrogation pour Jésus. Et dernier point, le sens de cette interrogation pour nous aujourd'hui. Sans tarder, regardons ensemble le premier point du message, le moment ou les circonstances de l'interrogation. Il est parlé ici à la neuvième heure, ça c'est le moment, ou vers la neuvième heure, c'est le moment où les choses se créent. Cette interrogation troublante a été posée. Vous savez, quelque chose d'abord qu'il faut préciser, la neuvième heure. Marc s'adresse à des auditeurs non-juifs. Il veut qu'il soit bien compris. Et vous voyez, la traduction en termes de sa langue en grec, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il veut être compris. Il demande l'attention de ce qu'il est en train de dire, c'est sérieux. Et il voulait que ses auditeurs l'écoutent. Quelque chose, quand on parle de neuvième heure, il faut revenir tout simplement comment les Juifs comptaient le temps à l'époque de Jésus. Donc les Juifs comptaient le temps à partir de 6 heures du matin, je dirais au lever du soleil, retenez bien, 6 heures du matin au lever du soleil, et à partir de 6 heures du soir au coucher du soleil. De sorte que la troisième heure est l'équivalent pour nous aujourd'hui de 9 heures du matin. 6 heures, on compte à partir de 6 heures, plus 3, ça fait 9 heures du matin. Et quand il parle de sixième heure, donc vous prenez 6 heures, on compte à partir de 6 heures du matin, plus 6, ça fait 12 heures, il est midi. Donc c'est à midi, quand la Bible parle de sixième heure. Et la neuvième heure, vous prenez 6 heures, vous rajoutez 9, c'est la quinzième heure, c'est-à-dire 15 heures de l'après-midi. Et la chose qui est importante ici, c'est que la neuvième heure ou vers la neuvième heure ou vers la neuvième heure, le Seigneur a fait 7 déclarations sur la croix, dont 3 avant que ne surviennent les ténèbres sur la terre. Je répète, la neuvième heure, le Seigneur a fait 7 déclarations. 3 déclarations avant que les ténèbres soient sur toute la terre. Nous lisons Marc 15:33, la sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Donc, la sixième heure, 6 plus 6, 12, il est midi. De midi à 15 heures de l'après-midi, les ténèbres surviennent sur toute la terre. Donc, j'ai dit cette parole. La première parole, hein, c'est dans Luc 23:34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Pardonne-leur. Oui, c'est la raison pour laquelle Jésus est allé à la croix, pour le pardon de nos péchés. Deuxième parole hein, de Jésus cloué sur la croix, en Luc 23, cette fois-ci 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le contexte, c'est tout simplement Jésus, quand il a été crucifié sur la croix, il y avait deux brigands qui étaient crucifiés, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Il y en a un des brigands qui se moquait de Jésus. Mais l'autre, il ne s'est pas moqué de Jésus. Et il a repris son camarade, il dit, pour nous c'est justice hein, que nous sommes ici cloués sur la croix, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, Jésus il parle, hein, n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus répond ici dans la deuxième déclaration, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième parole de Jésus, c'est dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il s'agit de Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus sur la croix souffre pour nos péchés. Il ne s'est pas concentré à ses propres besoins. Pourtant, il aurait pu, mais il pense à ce qui était autour de la croix, sa mère. Et sa mère, il lui a confié tendrement à l'apôtre Jean. Maintenant, la quatrième parole de Jésus dans Marc 15, 34, et la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» C'est l'objet de notre méditation ce matin. Ici, Jésus exprime l'agonie de son âme à cause des souffrances qu'il subit en portant nos péchés sous son corps. Cinquième déclaration en Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Et nous lisons qu'après que le soldat lui donnait du vinaigre, Jésus fait ces merveilleuses déclarations que nous voyons maintenant dans le sixième parole, Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus avait-il raison quand il disait cela? Que tout est accompli? L'Église catholique dit non. Il dit non parce qu'ils disent qu'il doit être crucifié à nouveau et être offert de nouveau à chaque messe. Mais la Bible dit que c'est faux. Jésus a raison de dire tout est accompli parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes. Il n'a pas besoin d'être crucifié à nouveau chaque fois à la messe. Jésus-Christ a été sacrifié une fois pour toutes. Et la dernière parole, là, en Luc 23, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Juste quelques applications pour nous aujourd'hui. Quoi retenir de ces sept paroles de Jésus? D'abord, je fais la remarque que dans sa première parole, pardonne-leur. Père, pardonne-leur, il disait. Et dans sa dernière parole que nous avons ici, Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, dans sa première et sa dernière parole, il dit « Père, le supplice de la croix ne lui fait pas douter un instant de l'amour de Dieu son Père. » J'aimerais juste vous dire des choses que vous pouvez consulter sur Internet, de savoir quels sont les derniers mots ou dernières paroles des grands hommes? C'est intéressant de le voir. J'ai regardé juste quelques-uns qui célèbrent dans l'histoire du monde. César Auguste, l'empereur romain. Vous savez comment il a dit le dernier mot de sa vie? Ai-je bien joué mon rôle? Alors, applaudissez, car la comédie est terminée. César Auguste. Napoléon, à propos de lui, le comte de Montholon écrivait « L'empereur meurt solitaire et abandonné. Son agonie est terrible. » J'ai relevé les dernières paroles de Winston Churchill, un homme d'État anglais. Il a dit, quel fou ai-je été? Quel fou ai-je été? Et le premier martyr chrétien, Étienne, expira et dit, Seigneur, je te remets mon esprit. Jésus, sa dernière parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quel exemple pour nous en tant que croyants aujourd'hui, hein, c'est que Jésus nous montre au début de sa parole et à la fin de sa parole cette confiance totale dans l'amour de son Père, malgré la supplice horrible de la croix sur laquelle il est. Vous savez, il y a un bon exemple pour nous ici que Jésus nous laisse. Dans les pires moments de la vie, et même celui de quitter cette terre, que Dieu nous fasse grâce de rester dans sa dépendance, soumise à sa volonté jusqu'au bout. Jusqu'au bout, au dernier souffle. Quoi retenir des circonstances que où Jésus a prononcé ces sept paroles quand il était cloué sur la croix? Les circonstances, nous l'avons lu tout à l'heure, il y avait des ténèbres sur toute la terre, à partir de midi jusqu'à 15 heures de l'après-midi. J'aimerais juste, et je crois ici, l'écrivain qui était Marc veut toucher ses auditeurs et faire comprendre, surtout les auditeurs juifs, hein, que quand il parle des ténèbres, ça leur rappelle quelque chose. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans l'histoire de la Bible? Parlons des ténèbres, les Juifs doivent ne pas manquer de penser à la première Pâque en Égypte, n'est-ce pas? Quelle était la neuvième plaie en Égypte? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Les ténèbres pendant 3 jours. Suivi de quoi? Suivi de la dernière plaie qui était la mort des premiers-nés. Il y avait des ténèbres sur toute la terre. Pour un lecteur juif, ça donne l'utilité. Ça me rappelle de la fête de Pâques. Et bientôt, il va célébrer Pâques dans quelques jours, ici, quand on se reporte à l'histoire de la crucifixion de Jésus. Ça leur rappelle la première Pâque en Égypte, où la neuvième plaie, c'était l'obscurité de 3 jours, suivie d'une dernière plaie, la mort des premiers-nés. Si ça vous intéresse, regardez Exode 10 chez vous, à partir du verset 22, jusqu'à Exode 11, verset 9. Alors, quoi retenir de ces ténèbres? Je dirais les ténèbres du calvaire annonçaient que le premier-né, le fils bien-aimé de Dieu, l'agneau de Dieu, cloué sur la croix, était en train de donner sa vie pour les péchés de ceux qui se moquaient de lui, pour nos péchés aussi. Ça doit nous rappeler cela, ces ténèbres. Mais attention, ces ténèbres annoncent aussi le jugement et que les hommes doivent choisir de venir vers la lumière. Jean, nous lisons Jean 3, 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Pourquoi ils ont préféré les ténèbres à la lumière? Parce qu'ils ont peur d'être dévoilés et d'être exposés. Je fais toujours cette anecdote qui a été citée par M. Robert Bixby, que Merveille a cité dans son témoignage tout à l'heure. Il disait, pensez un instant, vous les auditeurs ici, imaginez qu'on a un système qui permet de refléter tout ce qui est dans votre pensée pendant que vous m'écoutez. Quelle horreur, n'est-ce pas? Quand on va savoir ce qui est dans chacun des pensées reprojetées par le vitro-projecteur ici. Quelle horreur. On fuira vite après la porte et peut-être on ne mettra plus jamais les pieds ici parce qu'on s'est fait découvert, mis à nu. Oui, aujourd'hui, heureusement, ça n'existe pas. Et vous savez, un jour, la Bible dit que tout ce qui est caché dans les ténèbres le plus profond sera mis à nu, sera découvert. Oui, un jour, quand le juge de toute la terre, chacun des individus passe devant lui, tout sera mis à découvert. On sera nu, bouche bée. Et tout ce qui est dans nos pensées, nos cœurs, que nous pensons être cachés, sera mis à nu. Terrible. Oui, la bonne nouvelle, là, aujourd'hui, c'est que je suis venu comme une lumière, dit Jésus dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Dieu est venu en la personne de son Fils par la métaphore de lumière. Venez à lui. Ne restez pas cachés, pensant être cachés dans vos ténèbres, dans vos mauvaises œuvres. Venez à lui. Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est la bonne nouvelle. Quel est le sens de l'interrogation pour Jésus? Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'aimerais juste quand même, pour comprendre les choses, de vous dire qu'au temps de Jésus, les Écritures hébraïques n'étaient pas subdivisées en chapitres ni en versets, comme elles le sont aujourd'hui dans nos Bibles, même dans nos téléphones portables. Et il faut savoir que quand un rabbin cherchait à diriger ses auditeurs vers un certain psaume ou une partie des Écritures, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire en récitant les premières lignes du texte. Ici, Marc rapporte un passage que je ne vous ai pas dit, mais c'était un passage cité il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, par David dans le psaume 22, verset 2. Vous voyez? Donc l'auteur ici, dans la pensée des Hébreux, il va leur faire demander à chercher quelque chose. Il cite juste le premier mot des Écritures et ils savent, ah, il nous parle du psaume 22. Ils sont à la page. Et donc ici, de même, Jésus, par ce cri sur la croix, nous oriente vers le psaume 22 et nous révèle la nature et le but de sa souffrance. Et c'est à ce sujet que je vous amène à lire avec moi le psaume 22, versets 1 à 7. Juste. Donc, nous voyons ici le sens de l'interrogation de Jésus au chef des chantres sur Biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Verset 3. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. C'est terrible, hein? Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Juste deux remarques. Dans les versets 2 et 3 de ce psaume, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Nous entendons la plainte du Messie. Il se considère comme abandonné de Dieu. Vous voyez, c'est intéressant de regarder le grec. Hein. Marc utilise ici dans le verbe abandonner le mot grec ekataleipo. Laissez ça de côté. La signification, c'est abandonner, déserter ou laisser. Et le psalmiste ici, en hébreu, va, dans les citations de Marc, qui fait référence à psaume 2, hein, c'est ce que Jésus cite, il va faire comprendre à ses auditeurs autour de lui, chercher psaume 22. Et là, le psaume utilise le terme hébreu, azab, qui signifie quitter ou abandonner. Donc, c'est les mêmes mots, la même signification. Donc, dans les deux cas, le message est clair. Le Messie lui-même est conscient du fait que Dieu l'a abandonné et qu'il fait la sourde oreille à son appel. Vous savez, il ne s'agit pas d'un abandon imagé ou symbolique. Hein. Il s'agit bien d'un abandon réel de son Père. Vous savez, nul n'a jamais autant senti l'abandon de Dieu que son Fils sur la croix à Golgotha. Ça, c'est ce qu'on remarque du verset 2 à 3. Mais du verset 5 à 6 de ce psaume, hein, le souvenir de la fidélité de Dieu à l'alliance qu'il a faite avec son peuple amplifie encore l'angoisse du Messie. Vous voyez, le psalmiste déclare au verset 5, « En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Et moi, je crie et tu ne me réponds pas, n'est-ce pas ?» Ils criaient à toi, ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Vous voyez la contradiction criante? Dans toute l'histoire du peuple de Dieu, jamais un homme juste n'a crié à Dieu sans être délivré. Donc il y a un problème, c'est pour ça que c'est une interrogation troublante. Il y a un problème, parce que la parole de Dieu dit et atteste que quand un juste crie, Dieu vient à son secours, écoute ses plaintes, son cri. Exemple, David lui-même qui a composé ce psaume 22, il donne son témoignage, hein, dans, nous lisons dans 2 Samuel 22, verset 7, dans les circonstances difficiles. Vous pouvez regarder ou noter, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. C'est pour dire, Dieu n'était pas indifférent à ses cris et Dieu va intervenir. Ici, David, hein, ses circonstances, il était donc poursuivi par ses ennemis et aussi Saül. Et il criait à Dieu pour sa délivrance. Le psaume 18, on n'a pas le temps de le lire aussi, composé par David dans les mêmes circonstances d'adversité. Et au verset 7, nous lisons, Psaume 18, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Vous remarquez dans ces deux exemples, hein, que Dieu est sensible et attentif à son cri de détresse. Or, ce n'est pas le cas dans le psaume 22, verset 3. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit, et je n'ai point de repos. Comment comprendre, hein, cette semblante contradiction dans la manière d'agir de Dieu envers David, hein, mais qui s'applique sur la croix, 2000 ans plus tard, au Fils de Dieu, le Messie prédit, cloué sur la croix. Comment expliquer que Dieu se retire ainsi? Pourquoi s'est-il détourné de son Fils unique? Et vous savez, la réponse, hein, les réponses à ces questions troublantes résident d'une part dans le psaume 22, verset 4. Vous lisez, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Donc la réponse à question troublante se trouve ici, dans la certitude que David a sur la nature de son Dieu, la sainteté de Dieu. Il ne dit pas tu es un saint, mais il dit tu es le Saint, l'unique. Alors, il proclame sans équivoque la sainteté de Dieu. Et pourquoi ça, c'est la réponse à sa question troublante? Il suffit juste de bien poser les choses. Quand il évoque la sainteté de Dieu, il réalise qu'il est impropre à la présence de Dieu, qui est saint, saint mis à part, saint différent de lui, mis à part du péché, qui n'a jamais commis de péché, son monde hors du péché. Et alors, ça lui rend impropre à la présence de Dieu parce qu'il est pécheur, il a péché. Je répète, le fait d'évoquer la sainteté de Dieu lui montre et révèle son état de pécheur devant ce Dieu trois fois saint. Et comme Dieu saint, nous savons qu'il est aussi juste par ailleurs, ne peut pas tolérer, laisser passer, comme si on ferme les yeux sur le péché, il doit juger le péché à sa racine. D'où la condamnation et le jugement de Dieu. Et quel est ce jugement ici? Il a abandonné son Fils. Parce que nous lisons dans 1 Pierre 2, 24 qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il a été fait péché pour nous. Il n'est pas devenu pécheur. Il a été fait péché pour nous à notre place. D'où il a été abandonné de Dieu parce que Dieu ne tolère pas les péchés dans sa présence. D'autre part, un élément de réponse aussi, au verset 7, il dit, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Ici, il reconnaît le dédain à sa personne. Il est devenu un ver, mais plus un homme. Pourquoi Christ utilise un tel langage aussi dégradant, péjoratif, pour parler de lui-même? Moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. J'aimerais juste m'arrêter l'image qu'il utilise, le ver. Et moi, je suis un ver et non un homme. Selon la lexique de la Bible online, le mot ver se réfère à une espèce de l'écarlate qu'on appelle le coccidie. Vous regardez Wikipédia. De laquelle la teinture écarlate du tabernacle est obtenue. Je répète. Il s'agit donc de l'espèce, c'est un ver, l'espèce de l'écarlate qu'on appelle Coccus illicis, c'est nos scientifiques, ou Coccidie, de laquelle on tire, si vous voulez, la teinture écarlate et ce qu'on utilisait pour le tabernacle. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe quand Jésus métaphoriquement utilise l'image d'un ver, ici, en la personne de David, évidemment, 1000 ans avant? C'est tout simplement... Il faut que la femelle du ver meure pour que son corps sèche en fournissant une matière colorante, l'écarlate. Il faut que la femelle du ver meure et il va se sécher son corps en libérant une matière qui est l'écarlate et qui servait à teindre les éléments du temple, du tabernacle. Et de cette couleur colorante est extraite une teinture pour teindre les tissus en écarlate ou en cramoisi, n'est-ce pas? Mais on peut retrouver dans cette image du ver, dans l'image de Christ mourant sur le bois. J'ai dit la femelle du ver, il faut qu'il meure. Et quand il meure, il sèche, il libère cette matière colorante rouge qui permet de peindre et de teindre hein, les tissus hein, à l'époque. Et on voit dans ça l'image de Christ mourant sur le bois pour souffrir le jugement du péché à notre place, versant ainsi son sang précieux pour nous. L'image n'était pas choisie au hasard. Prophétiquement, on voit l'application dans la personne de Jésus. Il n'était pas devenu un ver, mais presque, parce que si vous lisez toutes les moqueries de toute la classe de société, jusqu'au hommes les plus religieux et plus puissants de l'époque, jusqu'à l'Empire romain, représentant sur cette croix notre Seigneur Jésus. Et ce sont ces soldats, le peuple, la foule qui se sont moqués de lui. Oui, en général, les hommes l'ont traité avec déshonneur et mépris. Et je dirais cela dès son enfance. Et ce dédain à son égard a atteint son degré extrême à Golgotha, où il a subi des injures cruelles de la part des hommes, tant juifs que romains, qui entouraient la croix, comme je viens de le préciser. Je vais terminer maintenant, mais quel est le sens de cette interrogation pour nous aujourd'hui? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel enseignement tirer de cela pour nous aujourd'hui? Je dirais comme si le Seigneur, sur la croix, pose cette question pour vous aujourd'hui, ici, assis, en écoutant ce message. Pose cette question pour nous les pécheurs, afin que nous comprenions son œuvre de la croix. Je répète, je dirais comme si le Seigneur posa cette question pour nous les pécheurs, afin que nous comprenions son œuvre de la croix. Ayant été fait péché pour nous, Dieu versa sa colère sur lui en prenant notre place. C'est nous qui devrions être cloués sur la croix, mais il a pris à notre place les conséquences, le jugement que méritait le salaire de notre péché. Ésaïe 53, verset 5 dit, il était blessé pour nos péchés. J'ai souligné « nos ». Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a quelque chose d'incompréhensible. À ma place, il a été blessé à cause de mes péchés. Ça, c'est ce qu'on appelle un substitut qui se met à la place d'un autre. Oui, il a subi volontairement par amour pour nous les pécheurs le jugement contre nos péchés. Il a enduré non seulement les souffrances atroces de la crucifixion, mais la punition que nous méritons pour toute l'éternité, l'enfer que nous méritons. Mais la deuxième partie de ce psaume dit ceci, « T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Quel enseignement tirer de cela? Je dirais que ce deuxième verset, partie de ce verset 22, chapitre 22, verset 2, nous révèle indirectement certains aspects du sort éternel réservé à ceux ou celles qui mourront dans leur péché, qui ne veulent pas croire en Jésus pour être leur Seigneur et leur Sauveur. C'est le sort réservé à celui qui refuse de placer sa confiance en se repentant et venir vers Jésus pour accepter, tout simplement pour être leur sauveur et leur Seigneur. Oui, Jésus-Christ sur la croix ayant été fait péché pour nous, n'a reçu aucun secours de la part de Dieu son Père, ni d'oreille attentive à ses plaintes. Je dirais, de même les pécheurs qui ne sont pas sauvés, seront abandonnés de Dieu à jamais en enfer dans les temps de feu, et n'auront aussi aucun secours et personne pour écouter leurs plaintes. La bonne nouvelle est que Dieu peut secourir les pécheurs de leur vivant. C'est maintenant, s'ils se repentent de leurs péchés et se confient dans l'œuvre accomplie de son Fils à la croix pour le salut de leur âme. Oui, sans tarder, venez à lui tel que vous êtes. Jésus a pris l'enfer que je mérite, que vous méritez. Il a été abandonné du Père parce que la colère de Dieu Saint est tombée sur lui qui a été fait péché pour vous. Venez à lui.